Le réseau d'informations sur les municipalités, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, arrive souvent avec de bons questionnements. Il s'agit d'aller les valider après, puis de voir qu'est-ce qu'on fait ensuite. Mais dans le cas qui nous intéresse ce matin, c'est que le réseau d'informations sur les municipalités, c'est en exemple la Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata comme modèle pour la mise en place et le fonctionnement des éco-centres. Personnellement, moi, j'ai jamais été dans aucun éco-centre au Témiscouata, mais comme dirait l'autre, j'ai passé un peu de temps à celui de Rivière-du-Loup. La question qu'on s'est posée, entre autres, c'est comment se fait-il, et c'est le réseau qui nous apprend ça, là, que l'éco-centre à Témiscouata sur le lac, entre autres, est ouvert une journée par semaine l'hiver. En tout cas, avançons-nous pas trop vite là-dedans, là, puis allons en parler avec Maxime Groslot, qui est le directeur général de la Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata. Bonjour, M. Groslot.
Bonjour.
Bon, premièrement, il y a combien d'éco-centres au Témis?
On a 4 éco-centres en fonction.
4 éco-centres. Bon, il y en a un à Témiscouata sur le lac. Les autres sont où?
Alors, il y en a un dans chaque secteur. Il y en a un à Ponégamouc, Squatec, Témiscouata sur le lac, dans le quartier Cabaneau, et Desjely à l'entrée de notre site d'enfouissement.
Est-ce qu'ils sont tous ouverts une journée par semaine ou il n'y a rien que celui de Témiscouata sur le lac qui est ouvert une journée par semaine?
On a en fait les 3 écocentres satellites qu'on appelle Ponégamouc, Squatec, Cabaneau, qui sont ouverts une journée par semaine, tous les samedis pendant l'hiver.
Ouais.
Celui de Desjely est ouvert 5 jours par semaine. Il est à l'entrée de notre site d'enfouissement.
Ouais.
Donc, on l'ouvre en même temps que...
Oui, oui, oui. Donc, dans le cas de celui-là, c'est plus facile, si on veut, là, à Desjely, parce que de toute manière, il faut ouvrir le site d'enfouissement. Mais en même temps, je présume qu'il y a toujours un préposé là en tout temps. Est-ce que c'est les mêmes personnes qui s'occupent du site d'enfouissement qui s'occupent des cossants?
Oui, c'est ça. En fait, c'est la personne qui est à la balance du site d'enfouissement. On a un opérateur sur le site, un préposé à la balance qui gère aussi l'éco-centre.
Bien, donc à ce moment-là, l'éco-centre n'engage pas, si on veut, de personnel supplémentaire. La personne qui est là fait ça à travers le reste.
Oui, c'est aussi pour ça qu'on a réussi à installer 4 éco-centres, puis à avoir les performances qu'on a, c'est en maximisant nos ressources.
Oui, oui, oui. Bon, concernant les 3 autres qui sont ouverts une journée par semaine, est-ce que les chiffres sont bons quand on dit que l'achalandage d'hiver compte à peu près pour 20% de l'achalandage de l'année au complet?
C'est un petit peu surestimé. Je vous dirais, j'ai pris les chiffres de cet hiver parce qu'on va l'ouvrir dans pas longtemps. On est entre 10 et 15% d'achalandage de toute l'année qui se passe dans les 4 mois d'hiver, décembre, janvier, février et mars.
Mais c'est quand même très bien si on considère que c'est ouvert une journée par semaine seulement.
Oui, c'est très bien. C'est ouvert tous les samedis. Puis c'est surtout que nous, il y a une volonté quand on a ouvert les écocentres depuis 10 ans, avant la 10e année d'opération, qui était vraiment de desservir le territoire puis de rendre le service aux citoyens. On habitue les gens à venir avril, mai, juin, jusqu'à tard l'automne. Puis la volonté était de ne pas couper le service pour ne pas briser l'habitude.
Oui, oui, oui. Justement, briser l'habitude, ça, c'est un facteur extrêmement important parce qu'il ne faut pas oublier, j'en parlais ce matin parce que moi, je suis un utilisateur de l'écocentre à Rivière-du-Loup. Il arrive souvent qu'on va faire des travaux de rénovation en hiver, qu'on a des appareils à changer, de l'électronique ou quoi que ce soit. Là, ça ne s'arrête pas parce que la neige s'est mise à tomber. Est-ce que vous étiez là quand on a mis en place ces éco-centres-là ou vous êtes arrivé après?
Non, je suis là, moi, depuis 2004. Les éco-centres, on les a pensés en 2007, construits en 2008.
Ouais.
Et puis, comme je vous dis, les éco-centres ne sont pas construits sur le même modèle. Ils ne desservent pas le même type de population, mais on les a construits en fonction de chaque secteur, justement.
Bien. Pourquoi vous dites qu'ils ne sont pas construits selon le même modèle?
Par exemple, à Desjely, on a de la machinerie, on a pour notre site d'enfouissement, on a déjà un loader puis d'autres machines. Donc, on a fait des dalles de béton avec des enclos. C'est plus facile, ça nous permet de casser les matériaux avec les loaders, d'en stocker plus, donc de diminuer nos coûts de transport. À Ponégamouc aussi, à Desjely et Squatec, on a fonctionné sur le même système que un peu partout ailleurs, c'est-à-dire qu'on jette en bas on monte sur un talus. Puis on jette en bas des matériaux.
Oui, oui. Dans les éco-centres du Témiscouata, puis là, je veux faire très, très attention de ne pas comparer les éco-centres du Témis avec n'importe quel autre éco-centre dans la province de Québec, y compris à Rivière-du-Loup. Mais est-ce que vous considérez, 70 % 80 % 90 % de ce qu'on va porter à l'écocentre qui sert vraiment à autre chose, ou est-ce que finalement il faut faire une très grande différence entre les centres de tri et les écocentres?
En fait, c'est pas les mêmes. Quand on parle de centres de tri, on parle des centres de tri pour les matériaux recyclables.
Oui.
C'est ça?
Oui.
On est vraiment dans des matériaux différents. Dans les écocentres, on a des gros conteneurs bleus pour le recyclage, papier, carton. Pendant le temps des fêtes, quand les gens font des déménagements, on a énormément de cartons qui rentrent. Mais tout le reste, c'est vraiment des matériaux qui rentreraient pas dans un bac à déchets ou dans un bac à recyclage. Nous, on récupère, pour vous donner l'ordre d'idée, les statistiques 2007, on a détourné 4 000 tonnes de matière. C'est la moitié de ce qu'on a enfoui par les citoyens. La moitié a été détournée par les écocentres. C'est du bois, des laveuses, des branches, des produits dangereux.
Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, avec des résidus de rénovation là, qu'on irait porter? Là? Je ne sais pas, moi, des restants de gypse, des restants de 2x4, de 2x3, des comptoirs de cuisine. On fait quoi avec ça?
Alors, quand vous allez arriver à l'écocentre, ce qu'on va vous demander, c'est de séparer deux choses. Tout ce qui est bois traité, bois peint, on le met dans un endroit. Puis tout ce qui est autre matériau de construction, non volatile, fait que pas de laine minérale, on va le mettre dans un autre endroit.
Ouais.
Le bois va être chippé, séparé, broyé pour faire de la valorisation énergétique, ou si on arrive à séparer du bois de bonne qualité pour faire de la ride pressée, par exemple.
Ouais.
Le reste, ça va être broyé, puis le verre va essayer d'être récupéré, le bardeau d'asphalte va essayer de récupérer.
Ah bon?
Nous, on fait pas ça à l'interne, parce que ça prend des gros équipements. On travaille avec conteneurs KRT à Rivière-du-Loup, qui est autorisé par le ministère de l'Environnement. Et puis, on leur donne les contrats de valoriser ces matériaux.
Donc, on pourrait s'imaginer que ce qui retourne à l'écocentre est revalorisé, appelons ça comme ça, dans une proportion de combien en pourcentage?
Sur 10 ans, nous, on est à 84 %.
Et c'est quand même très bien. Lorsqu'on rapporte, par exemple, des résidus de peinture ou des restants de peinture, soit qu'on n'en a plus besoin ou que la qualité est altérée, est-ce que ça se fait encore, ça, de recycler de la peinture puis de faire avec ces peintures-là des couleurs qu'on retrouve pas sur le marché?
Oui, une peinture qui s'appelle Boomerang, qui est, en fait, ça c'est régi par une loi provinciale. Il y a un circuit qui est fait, on a des bacs où on sépare peinture, huile, puis tous les autres produits dangereux. Puis tout est recyclé ou détruit selon des normes, comme par exemple les piles qui contiennent des métaux dangereux, sont détruites, puis les métaux sont valorisés.
Ouais. Oui, allez-y.
Ce que je voulais dire, c'est que quelque chose qui est caractéristique aussi de notre région, on a un très grand territoire, comme vous le savez, on a ouvert les écocentres pour éviter d'avoir des dépôts partout sur le territoire, en dehors des endroits qui sont dédiés. Ça, c'est très important. C'est qu'on accepte tous les types de déchets, sans frais.
Tous les types de déchets dans les écocentres?
Oui.
Est-ce que...
Excepté les produits dangereux, radioactifs ou...
Mais est-ce que vous êtes en train de me dire que quelqu'un qui veut pas attendre que le camion à vidange passe la semaine peut aller porter ses vidanges à l'écocentre?
Oui.
Ah bon?
Comme par exemple quand il y a des soupes de homard ou des choses comme ça.
Oui.
Ça sent pas très bon.
Oui.
On a des conteneurs qui sont dédiés, puis les gens peuvent venir. L'objectif qu'on demande aux gens, puis les employés qu'on a sont vraiment très bons pour ça.
T'sais. Oui. Ouais.
Par écho, on a un bon service par les employés. L'objectif, c'est qu'on leur demande de recycler au maximum.
Ouais.
Mais on a un endroit pour tous les types de déchets.
Ouais. Tant qu'à y être, parce que je me suis souvent posé la question, souvent l'automne, on va porter des tonnes de feuilles en termes de quantité. Qu'est-ce qu'on fait avec ces feuilles mortes-là et puis avec ces petites branches-là qu'on va aller porter après avoir taillé la haie ou la haie de chèvrefeuille ou je sais pas quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
En fait, on fait du compost. Dans nos écocentres, soit nous on en fait par exemple là où on a des loaders, des gelis Pouénégamouk, on fait du compost mais sans le tamiser, puis les gens peuvent venir en chercher quand c'est leur adonne, sauf que c'est pas du compost qui est mis en sac.
Oui, je comprends.
Compost qui est brassé naturellement. Dans les autres, on travaille avec des agriculteurs ou avec des municipalités ou des entreprises qui ont des bancs de gravier. Ils utilisent ça pour engraisser leur terre végétale,
ouais.
Leur terre jaune. Excusez-moi.
Et encore là, je pose la question en prenant bien soin de dire qu'on parle toujours des écocentres et non pas de centres de tri. Là. Est-ce que vous avez des espaces à couvert dans vos écocentres au Témiscouata, c'est-à-dire des endroits où on a des matériaux finalement qui se retrouvent à l'abri de la neige puis de la pluie, ou est-ce que tout ça est à l'air libre?
Pour la majorité des matériaux, c'est à l'air libre, matériaux de construction, métal. Tout ce qui est réutilisable ou produit dangereux est à l'abri, mais pas dans des bâtiments, dans des, à part des gelis où on a un dôme, c'est dans des conteneurs maritimes qui sont entreposés puis verrouillés.
Oui. Je ne sais pas vraiment, là, je pose la question sans connaître la réponse, mais vous la connaissez certainement. Est-ce que le Témiscouata a une entente avec l'usine de biométhanisation ici à Kakuna?
Non, on n'a pas d'entente avec personne pour le moment au niveau des matières organiques. Les résidus verts, comme vous parlez, feuilles, pelouses, on les traite nous-mêmes. Les branches sont broyées puis envoyées à la vérification chez Cascam. Pour les matières organiques de chez les gens, on continue à travailler sur notre projet depuis quelques années. Les règles ont changé depuis le mois de décembre dernier. Donc, on va réviser notre projet en conséquence.
Ouais. Mais je présume que vous avez été sollicité par la CEMER?
Oui.
Et jusqu'à maintenant, la réponse, c'est non.
Ben en fait, le principe de la biométhanisation, quand il va fonctionner, est intéressant. Mais nous, notre problème, c'est le ramassage, la collecte. On ne veut pas mettre de bac brun parce qu'on a un territoire immense. Ça coûterait à peu près... On a fait l'étude là, de mettre en place les bacs bruns. Ça serait à peu près un impact de $50 par compte de taxe.
Oui. Mais en même temps, quand on sait que le gouvernement va obliger à retenir de plus en plus de matière avant de l'envoyer au centre d'enfouissement technique, je pense que c'est 2021. Est-ce que ça se peut...
2020, puis ils veulent peut-être le repousser à 2022 pour l'instant.
Oui. À ce moment-là, le gouvernement serre la vis. Est-ce que vous croyez qu'avec les méthodes actuelles, vous allez y arriver?
Ben en fait, avec les nouvelles règles qui sont sorties en décembre 2017, donc assez récemment, les règles ont été modifiées. On n'aura toujours pas le droit d'enfouir de la matière à partir de 2020, mais on n'est plus obligé de faire du mur à mur comme c'était avant. Les municipalités de 5000 habitants et moins ont une plus grande latitude pour mettre en place un service adapté. Nous, ce qu'on vise, c'est responsabiliser les citoyens, les inciter à faire du compostage domestique, puis leur offrir des lieux de dépôt d'apport volontaire dans chaque municipalité. Fait que quelqu'un qui voudrait faire la démarche l'a fait, mais on n'ira pas tordre un bras à quelqu'un qui ne veut pas le faire.
D'accord. Merci, M. Groslot. Très intéressant.
Merci.
Maxime Groslot, directeur général de la Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata. Vous l'avez entendu, finalement, il n'y a pas grand nuance à faire par rapport à ce qui a été soulevé par le réseau d'information des municipalités versus ce que M. Groslot nous a dit. On nous a mentionné que finalement, à Desgelis, c'est assez simple parce que c'est au même endroit que le site d'enfouissement technique. Pour les autres qui sont situés, entre autres, secteur Cabaneau à Témiscouata sur le lac, on est ouvert une fois par semaine parce que Desgelis, lui, est ouvert à tous les jours comme en été. Puis il y a des raisons qui justifient qu'on puisse le faire sans engendrer des coûts supplémentaires. Pour les autres, c'est ouvert une journée par semaine. Puis moi, ce que j'ai retenu là-dedans, puis je pense que c'est la règle du gros bon sens qui nous amène à ce demander après, oui, mais pourquoi on ne pourrait pas avoir ça chez nous une fois par semaine? Et quand je pense à chez nous, je pense à l'écocentre ici à Rivière-du-Loup. M. Groslot nous a dit, la raison est bien simple, on ne veut pas que l'habitude se perde. Et moi, je donnais vraiment là deux exemples, puis je veux dire, mes exemples les miens sont aussi bons que ceux des autres. C'est qu'à un moment donné, chez vous, t'as des choses dont tu veux te débarrasser, tu fais du ménage dans le cabanon ou n'importe quoi, tu peux faire ça en plein hiver. Puis là, tu te dis, l'éco-centre est fermé, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, ça, c'est une chose. T'as un électroménager à remplacer. Ça, c'est moins pire, parce qu'il y a quand même une entreprise à Rivière-du-Loup, chez Bastille, pour ne pas la nommer, qui récupère des métaux 12 mois par année. T'as dans l'électronique, c'est arrivé, où on avait des vieux trucs ici, des vieux ordinateurs à se débarrasser, puis la voie normale, ça aurait été de partir pour l'écocentre avec ça, alors que là, on a dû aller sonner à quelques portes pour demander à des commerçants en électronique si premièrement, si eux autres les ramassaient, puis deuxièmement, si eux autres les ramassaient pas, est-ce qu'ils connaissaient quelqu'un qui les ramassait, puis ainsi de suite, vous comprenez? Alors que le réflexe tout simple aurait été de dire, on met ça dans un véhicule ou dans une remorque, puis on part avec ça, puis on s'en va à l'éco-centre. Alors, question d'habitude. Pour le reste, j'ai noté au passage... que le Témiscouata ne fait pas partie de la CMR. Vous allez me dire si vous êtes au courant qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans, mais honnêtement, moi, je suis pas capable de vous faire la liste là de ceux qui participent à la CMR, pas plus que je suis capable de vous faire la liste de ceux qui participent pas. Monsieur Groslot a amené aussi un point de vue intéressant qu'on ne nous avait pas toujours vendu comme ça, là. Le fameux 2020-2021, M. Groslot nous a appris également que, dépendant de la grosseur de la municipalité, les règles vont pas s'appliquer de la même façon et que dans les plus petites municipalités où il y a un grand étendu de territoire, M. Groslot parlait d'une cinquantaine de piastres là, à ajouter sur le compte de taxes des citoyens pour avoir le bac brun. Alors, c'est on y pense à deux fois, comme on dit. Et M. Groslot a dit, on va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incitatifs, mais en même temps, on va pas tordre le bras de personne qui déciderait de ne pas composter chez lui ou de ne pas rapporter des choses à l'écocentre. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans le propos de M. Groslot, c'est que dans certains de ces écocentres, parce que là, je veux pas m'avancer en disant dans tous, si c'est tous, tant mieux, si c'est quelques-uns, ben écoute, je me serais pas inutilement avancé. Il a dit, en tout temps, tu peux aller porter tes vidanges domestiques. Et le plus bel exemple qu'il a donné, c'est que tu fais un party à la maison, les poubelles sont bien pleines ou bien ça sent le diable, tu peux partir en tout temps. T'as pas besoin d'attendre après le camion à vidange. Tu peux charger ça dans ton pick-up, dans ta remorque. Tu peux faire ce que tu veux, puis aller porter ça directement dans certains écocentres.